Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Un documentaire historique sur l'histoire de la Flandre passionne au nord du pays. Faut-il y voir une manœuvre politique? On voit ça dans un instant. Mais avant, les pays occidentaux vont-ils livrer des avions de chasse à l'armée ukrainienne, comme on a pu le voir avec les chars de combat? Nous sommes le jeudi 2 janvier, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Après avoir obtenu la livraison de chars de la part des Occidentaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky passe à un niveau supérieur. Il souhaite obtenir des avions de chasse. L'Occident va-t-il accepter cette demande alors que Washington a déjà refusé? De quels avions s'agit-il? Y a-t-il un risque d'escalade significatif? Comment se positionne la Belgique face à cette requête? Camille Petou est passée en studio avec Philippe Debouc, chef du service Monde. Il répond à nos questions.
Bonjour Philippe.
Bonjour Camille.
La question de la livraison de chars lourds a été réglée. Les Occidentaux vont en livrer, notamment des Léopard 2 et des Challenger 2. L'Ukraine demande maintenant la livraison d'avions de chasse.
En effet, donc le président Zelensky a adressé une demande en ce sens juste après avoir obtenu la garantie qu'il allait recevoir un certain nombre de chars lourds, Léopard 2 ou Challenger 2. Alors ils en ont besoin parce qu'ils disent qu'une grande offensive russe se prépare et que s'ils veulent résister à cette grande offensive russe, ils ont intérêt à avoir des moyens aériens suffisants. Il faut savoir qu'une grande partie de la flotte de la force aérienne ukrainienne a été éliminée depuis le début de l'invasion russe et que donc la force aérienne ukrainienne s'est réduite à peau de chagrin, en tout cas en ce qui concerne ce type d'avions, donc des chasseurs ou des chasseurs bombardiers.
On sait que Washington a catégoriquement refusé. Pourquoi?
Alors le président américain Joe Biden a dit quelque chose de très clair, c'est que les États-Unis ne fourniraient pas d'avions. Par contre, il faut savoir que si des avions de type F-16, qui sont donc des avions américains, sont livrés par d'autres pays, comme par exemple les Pays-Bas qui ont déjà dit qu'ils étaient prêts à le faire, il faut l'autorisation des Américains. C'est la même chose que pour les chars Léopard, qui eux étaient allemands, mais il fallait le feu vert des Allemands. Biden n'a pas dit explicitement qu'il refuserait de dire oui à ce genre de demande. Donc il a dit clairement qu'il ne voulait pas en fournir, que les États-Unis n'en fourniraient pas, mais qu'il ne s'oppose. Enfin, il n'a pas dit qu'il ne s'opposerait ou ne s'opposerait pas à la fourniture de ce genre d'avions.
Pour l'instant, les Européens ont l'air plutôt réticents face à cette livraison. Est-ce que leur position pourrait évoluer, comme ça a été le cas depuis plusieurs mois avec l'armement qui est fourni à l'Ukraine?
C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. On peut comprendre que la plupart des pays sont réticents, à part peut-être deux pays européens comme les Pays-Bas et aussi la Slovaquie, mais qui, elle, fournirait plutôt des avions de chasse de type MiG, donc de fabrication soviétique. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que d'un côté, les Européens ne veulent pas non plus donner tout leur stock à l'Ukraine, parce que si jamais un jour le conflit se généralise et que l'OTAN est attaqué, il faut que chaque pays et que l'OTAN ait des moyens suffisants pour se défendre. Et puis, on ne vend pas des avions comme ça n'importe comment. Pour l'instant, en tout cas, parce qu'il faut aussi voir que dans les déclarations officielles, ils laissent toujours la porte ouverte à une éventualité, parce que c'est clair que si le conflit arrive à un autre niveau, pour l'instant c'est un conflit essentiellement terrestre, les Russes n'utilisent pas non plus de moyens aériens contre les Ukrainiens, ils l'ont fait au début mais ils ne le font pas pour l'instant. Donc c'est une guerre essentiellement terrestre, si on passe à une dimension supérieure, tout le monde en reparlera.
Et comment est-ce que la Belgique, elle, se positionne par rapport à cette requête de l'Ukraine ?
Donc la Belgique effectivement a des F-16 qu'elle utilise notamment dans le cadre de l'OTAN. La ministre de la Défense, Madame de Lander, a dit qu'elle n'était pas favorable pour l'instant à ce genre de livraison parce qu'on en a besoin. Donc la Belgique a commandé des nouveaux F-35, mais dont le premier exemplaire ne sera livré qu'en 2025. Donc pour l'instant, on ne peut pas se passer des F-16 qui sont régulièrement sollicités et qui sont encore tout à fait opérationnels.
Mmh. Et justement, on parle de quel type d'avion pour mieux comprendre? Est-ce que c'est des avions qui rendraient l'armée ukrainienne significativement plus forte?
Alors ce sont essentiellement des avions de chasse et des chasseurs bombardiers. Donc ce sont des appareils militaires très rapides qui permettent de lancer des bombes, des missiles ou des roquettes de manière très ciblée à plusieurs endroits. Donc c'est des avions qui peuvent sécuriser le front ou attaquer le front ou défendre le front. Le front ici, il fait plus de 1000 km. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus mobile qu'un char. Un avion à réaction peut atteindre Mach 2 ou 2000 km/h. Ça va très 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 rapide. Et donc ça permet de soit défendre, soit attaquer. Et c'est ça aussi le risque justement, et le fait que pas mal de pays occidentaux et les Américains sont un peu réticents, c'est que si on fournit un nombre suffisant, parce que ça dépend aussi du nombre d'avions qu'on pourrait fournir, c'est un peu comme pour les chats, si on en fournit quelques-uns, c'est pas ça qui permettra à l'Ukraine d'aller trop loin, parce que certains se disent si les Ukrainiens ont une force aérienne suffisamment forte, ils pourraient aller jusqu'en Crimée, et la Crimée c'est quand même pour beaucoup une ligne rouge.
À nouveau, on se pose la question de la faisabilité. Est-ce qu'il y a assez de pilotes formés, compétents dans l'armée ukrainienne pour conduire ces avions?
Alors ça, c'est un autre problème, c'est effectivement les pilotes. Donc à moins que des pilotes soient déjà en formation pour l'instant de manière discrète, ce que personne n'a confirmé, il faut minimum pour des pilotes qui sont déjà des pilotes de chasse sur d'autres types d'appareils, il faut entre 4 et 6 mois pour se former. Et alors il y a un autre aspect, c'est pas que les pilotes, c'est qu'aussi les mécaniciens, l'entretien de ce type d'appareil au niveau logistique, armement, est très compliqué. Et là aussi, il faut former des gens. Et chaque type d'appareil, il faut être certifié sur ce genre d'appareil. La force aérienne ukrainienne ne l'est pas pour l'instant.
Vous pensez que cette ligne rouge va être encore longtemps repoussée? Est-ce qu'on n'a pas peur d'une escalade dangereuse et de faire apparaître une provocation trop intense envers Vladimir Poutine?
Pour l'instant, on n'y est pas. Poutine a très clairement dit à plusieurs reprises que si les Ukrainiens s'attaquaient à la Crimée, c'était une ligne rouge à ne pas franchir et que lui, selon la doctrine militaire en usage russe, passerait à l'étape suivante et donc la menace nucléaire. Menace nucléaire qu'il a aussi déjà brandie plusieurs fois par le passé, mais qui n'est jamais qu'une menace. C'est une arme de dissuasion, ce n'est pas une arme tactique. La menace existe. Et il faut savoir que Kherson, par exemple, qui a été reprise par les Ukrainiens, est à peu près à 150 km de la Crimée. Donc lancer des chars vers la Crimée, si on en envoie beaucoup, c'est faisable. Des avions de chasse, ils peuvent très facilement aller en Crimée. Et je crois que c'est ça, c'est ce que disent aussi pas mal d'experts militaires, c'est que c'est ça qui bloque les Occidentaux et les Américains pour l'instant. C'est de se dire, si on fournit ce type d'avion de chasse, chasseur-bombardier, à l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Zelensky a toujours dit que son objectif, c'était de reprendre le Donbass, les zones occupées et tout le territoire, en ce compris la Crimée. La ligne rouge, apparemment, elle est là. Alors personne ne le confirme, personne ne le dit, aucun chef d'État va le dire, mais on sent très bien que c'est vraiment ça la ligne rouge et c'est pour ça qu'ils sont réticents.
Et quand est-ce que cette livraison de chars et d'avions va devenir une réalité? C'est quoi le délai de livraison?
Pour les avions, pour l'instant, personne n'a dit qu'ils en livreraient, donc un avion peut très vite. Un avion peut très vite décoller et atterrir sur une base aérienne. Ça peut se faire en quelques instants. Maintenant, il y a toujours le problème de la formation des pilotes, sauf si des pilotes sont déjà en formation par ailleurs. Pour des chars, ça prend aussi un certain temps. Personne ne sait dire exactement combien de temps. Un char lourd, ça pèse au moins 80 tonnes. Un avion, c'est beaucoup plus mobile et ça peut aller beaucoup plus rapidement.
Merci beaucoup.
Merci.
Tous les dimanches, depuis le 1er janvier, des centaines de milliers de Flamands s'installent devant la télévision pour suivre Het Verhaal van Vlaanderen, littéralement l'histoire de la Flandre.
Vlaanderen, een kleine lap grond waar we met z'n 6,5 miljoen wonen, werken, leven. En dat doen we al heel erg lang. In het verhaal van Vlaanderen ga ik 10 weken lang diep in het verleden duiken.
Une série documentaire qui a pour objectif de retracer l'histoire flamande depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Les images et les costumes sont spectaculaires, la réalisation digne des meilleures séries d'action et les audiences sont au rendez-vous. Mais malgré toutes ces critiques positives, la série a aussi connu son lot de polémiques, notamment sur l'argent nécessaire à la production qui est venu notamment de ministres NVA. Alors faut-il y voir un programme de propagande nationaliste? C'est une des questions que l'on a posées à Maxime Biermé du service politique. Bonjour Maxime.
Bonjour.
C'est quoi Het Verhaal van Vlaanderen, cette nouvelle série qui passionne la Flandre?
Oui, ça fait un mois que de nombreux Flamands se branchent sur la VRT, donc l'équivalent de la RTBF, tous les dimanches soirs, vers 20h, pour regarder pendant une heure une émission qui raconte l'histoire de la Flandre. Et ça commence à la préhistoire, donc on commence très loin dans le passé. C'est une heure par semaine et on remonte le temps jusqu'à aujourd'hui. Et ça va durer 10 épisodes.
Ça fonctionne bien au niveau de l'audience?
Ah oui, c'est assez incroyable puisque les audiences font plus d'un million de téléspectateurs. En moyenne, selon la VRT, on est même à 1,6 million si on compte ceux qui ont enregistré, qui ont regardé dans les jours qui ont suivi. C'est digne des audiences des Diables Rouges au nord du pays.
L'idée, c'était de faire une série documentaire historique, historico-politique. C'est quoi le but recherché derrière cette série?
Alors à la base, c'est un concept comme The Voice ou comme Mask Singer, enfin comme les émissions qu'on voit un peu partout sur la planète dans tous les pays. Un concept danois où on prend un animateur très populaire, ici c'est Tom Waas, que tout le monde connaît en Flandre et même chez nous côté francophone, on le connaît un peu via la série Undercover. On le prend et on le téléporte dans une époque, donc par exemple la préhistoire. Et alors il y a beaucoup d'argent qui est mis pour que les personnes se sentent vraiment téléportées avec l'animateur, et donc on voit des hommes préhistoriques qui sont donc des acteurs, les décors, enfin on est vraiment dans la préhistoire avec l'animateur qui interagit avec son milieu et qui raconte donc ce qu'il voit, la Flandre à la préhistoire. Et puis bien sûr il y a des historiens qui entre chacune des séquences expliquent ce qui se passait à cet endroit là pour donner un peu une caution intellectuelle quand même.
C'est ça, c'est pas juste de la fiction, il y a quand même une caution intellectuello-historique.
Oui, c'est un peu comme Secret d'Histoire où on voit des images de personnalités comme des grands rois, etc. qu'on va voir. Alors ils parlent pas en général en fait les personnages, on les voit, et c'est via Thomas le présentateur ou via les historiens qu'on va raconter leur histoire. C'est pas une série de fiction qu'on regarde, c'est des mises en scène pour illustrer des propos historiques en fait.
La Genèse, c'est un producteur flamand qui se dit je vais réimporter ce concept danois, où il y a quand même une intention du monde politique derrière.
Bon, alors il y a beaucoup de discussions autour de ça. Moi j'ai interrogé le rédacteur en chef de cette émission, on parle d'une série mais c'est une émission en fait, qui il y a 4 ans a connu ce concept danois qui avait très bien marché, qui a été adapté aux Pays-Bas aussi, c'est comme ça qu'il a vu que ça existait, et donc il s'est dit on va faire ce programme. Et ce rédacteur en chef, il est aussi très ami avec Tom Wass, le présentateur, donc c'est vraiment un projet qu'ils disent avoir pensé eux-mêmes. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a 4 ans, on était au moment de la formation du gouvernement flamand de 2019, avec la NVA en Flandre, le CD&V et le VLD. La NVA qui s'était déjà faite un peu bousculer par le Vlaams Belang lors de ces élections-là, et qui avait donc dit, pour répondre à cela, on va développer encore plus fort l'identité flamande. Ça passera par la mise en place de différentes choses, un musée de la Flandre, un canon flamand sur lequel plein d'historiens doivent travailler pour rassembler un peu tout ce qui correspond à ce qu'est être flamand. Bon, c'est toujours pas très clair ce que ça va être, on va peut-être bientôt le savoir d'ici quelques semaines. Et puis alors, cerise sur le gâteau, est arrivée cette série qu'on n'a pas vu venir, enfin en tout cas pas moi personnellement, et je pense pas non plus beaucoup de médias, puisqu'il a fallu 3 ans voire 4 ans pour la préparer. Et donc à la base elle n'est pas financée, elle n'est pas faite par le gouvernement flamand pour la télévision publique, mais par contre ce qui est avéré c'est que les producteurs n'auraient jamais eu assez d'argent pour financer les costumes, les reconstitutions, les acteurs, enfin cette émission coûte très cher, s'il n'y avait pas eu de l'argent des autorités.
L'argent il vient d'où justement? Elle est financée par qui cette série? En partie par le gouvernement flamand, vous l'avez dit, mais pas uniquement.
En fait ce qui a marqué les esprits, qui a choqué, qui a fait beaucoup de presse et beaucoup d'articles dans les journaux flamands tout au début de l'année 2023, donc juste avant le premier épisode qui a été diffusé le 1er janvier, donc un jour où tout le monde est devant la télé, c'est aussi pour ça que ça a fait une très très belle audience, eh bien on a remarqué qu'il y avait plus de 2 millions d'euros qui venaient de 3 ministères NVA. Bon, il faut dire qu'au gouvernement flamand, il y a beaucoup de NVA puisqu'ils sont le plus grand parti en Flandre, et il faut aussi nuancer en ajoutant qu'il y a de l'argent qui vient d'un ministre CD&V, donc c'est pas que la NVA qui a donné de l'argent pour ces émissions, même le fédéral via le mécanisme du tax shelter a contribué à hauteur d'aussi plusieurs centaines de milliers d'euros, donc il y a même des sous fédéraux pour cette série. On aurait même pu imaginer en fait une coproduction avec la RTBF ou avec d'autres chaînes de télé pour financer tout cela. Donc oui, il y a de l'argent du public, mais pas uniquement.
Maintenant qu'il y a plusieurs épisodes qui ont été diffusés, on peut en faire une lecture un peu plus politique. Il y a justement des hommes, femmes politiques flamands qui sont exprimés sur est-ce que c'est une série nationaliste ou pas.
Oui, alors dans les 2 premiers épisodes, c'était d'abord à la préhistoire, le second chez les gallo-romains, c'était bon, un gallo-romain flamand finalement, voilà, on peut presque en rigoler, donc on voyait pas trop d'effet, mais c'est vrai que le 4e épisode était sur la bataille des éperons d'or. Déjà rien que le fait de consacrer tout un épisode sur, alors qu'on prétend raconter l'histoire de la Flandre en 10 épisodes, donc y consacrer une heure à cette bataille des éperons d'or, c'est un geste politique, comme d'appeler l'émission Uitverhaal van Vlaanderen, donc de la Flandre, et pas Uitverhaal van België, donc de la Belgique. Et donc on a eu des réactions finalement parfois étonnantes, puisque même la NVA, dont on a dit qu'elle finançait, peut-être que c'est dans un projet limite, on peut y voir un complot, mais en fait Bart De Wever a donné une grande interview dans le journal le plus lu en Flandre qui est Het Laatste Nieuws, pour dire qu'il n'avait pas du tout aimé le traitement de la bataille des éperons d'or, parce qu'elle a été traitée sous l'angle plus social que bataille incroyable des néerlandophones, enfin des flamands,
c'est ça,
que
bataille
pays.
Fondatrice,
oui,
de l'histoire du mouvement flamand.
Ça a cassé un peu le mythe, et d'ailleurs certains historiens disent qu'on aurait pu parler d'autres batailles que celle-là en fait.
Vous en avez interrogé justement un historien, un politologue, pour avoir un peu leur point de vue sur la série. Ils en pensent quoi, l'historien d'abord?
Ah bah alors l'historien, évidemment, il défend la série, puisque celui que j'ai interrogé participe à la série. Ce qui est intéressant à signaler, puisqu'on parle beaucoup de politique, c'est qu'il se revendique de gauche, il a été sur une liste du PVDA, donc l'équivalent du PTB. Alors évidemment il fait ça avec sa neutralité, en tout cas je l'espère, mais clairement un historien dit à gauche a pu commenter la bataille des éperons d'or dans cette émission, donc ça montre quand même qu'il y avait un certain pluralisme. Et lui dit justement, allez, évidemment il y a des défauts, évidemment on choisit ce dont on parle, mais c'est quand même à assez génial de pouvoir parler d'histoire en prime time à la télévision flamande. Ça va susciter des vocations, ça reste intéressant.
Vous avez aussi interrogé le politologue Dave Sinardet sur cette question du nationalisme. Lui, il en pense quoi ?
Alors lui, il est un petit peu moins chaud, mais il parle d'un concept qui m'a semblé assez intéressant à développer. C'est le concept que je ne connaissais pas de nationalisme banal. C'est-à-dire que même si on ne doit pas voir une grande manipulation, comme je le disais, derrière toute cette série, il y a quand même ce concept de nationalisme banal. C'est-à-dire qu'en fait, on va insinuer dans l'esprit des téléspectateurs des choses en le voulant ou en ne le voulant pas de la part des producteurs. Donc comme je disais, rien qu'appeler ça Uitverhaal van Vlaanderen, raconter l'histoire de la Flandre, c'est un choix politique qui a été fait par la production, on peut se dire, pour obtenir des financements a priori, mais qui a des conséquences sur la manière dont les gens vont regarder cette émission et associer tout ce qu'ils voient à « Ah, ça c'est l'histoire de la Flandre ». Alors après, encore une fois, on peut nuancer parce que dès le premier épisode, ils vont à la grotte de Spie, qui n'est pas en Flandre, et donc on comprend en fait assez vite en regardant la série que bon, ok, on part du concept « c'est la Flandre », mais dans les faits, ils n'arrêtent pas de passer les frontières, ils n'ont pas le choix, la Flandre de toute façon n'existait pas à l'époque.
Et un petit mot sur Tom Waas, qui est donc animateur, présentateur de ce programme. Vous le disiez, on le connaît un petit peu en Belgique francophone via la série Undercover. Au nord du pays, c'est véritablement une star.
C'est même une superstar de la télévision. En fait, n'importe quel programme dans lequel vous mettez Tom Waas va être regardé a priori. Donc, je pense qu'il est vraiment l'une des raisons principales des très bonnes audiences, avec le programme qui lui-même est impressionnant. Mais Tom Waas, c'est, oui, depuis 15 ans, c'est la grande star. Il n'y avait personne d'autre de comparable à lui, à part le fameux Bar de Pauw, mais qui a coulé avec Me Too.
Vous avez vu les épisodes qui ont déjà été diffusés. Honnêtement, ça vaut la peine d'être regardé.
Si vous êtes fan d'histoire, vous allez peut-être être un peu choqué par le fait que c'est du divertissement, donc attention. Mais si vous aimez des émissions comme Secrets d'Histoire, je trouve ça plus moderne, avec vraiment un animateur qui est dans les événements. C'est drôle aussi, parce qu'il est drôle. Donc si vous comprenez un petit peu le néerlandais, il y a les sous-titres qui sont disponibles. C'est disponible sur le site de la VRT.
Merci beaucoup, Maxime.
Merci.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain !